CO2 mon amour avec Honda Automobile, constructeur de véhicules hybrides essence électrique.
Ça se reconnaît un écologiste.
Les quotas de thon rouge.
L'hydrogène aujourd'hui ne sert à rien.
Il y a urgence à agir pour sauver la planète.
CO2.
Sans produits chimiques.
Mon amour.
Avec tous ces oiseaux à la con, ils sont 5 à 9.
Denis Chessou.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer et de penser en rond, en tout cas qui essaie et qui aussi tente de prendre le temps de ne pas aller trop vite. Avec Sophie Moreno et Patrick Henry aujourd'hui la technique et assistée de Marion Lelay, de Jean-Christophe Pinaza, c'est Fabrice Laigle qui réalise l'émission. Allez, une petite humeur qui nous emmène au Caire, à Assouan, Alexandrie. Depuis plus d'une semaine, des milliers d'Égyptiens sont réunis dans les rues pour siffler la fin de partie après 30 ans de règne du vieux Raïs. Alors dites-moi, combien sont-ils encore sur la planète, ces petits pharaons accrochés à leur fauteuil de président à vie, hein ? Réveillez-vous les amis, c'en est fini des pyramides. Et oui, les dieux des temps modernes sont partis à Wall Street. Leurs temples en forme de gratte-ciel poussent comme des champignons à Shanghai, Kuala Lumpur, Dubaï, etc. Illustration du syndrome de celui qui a la plus grande tour. Du haut de ses 800 mètres d'acier, de béton et de verre, 40 années de développement absolument pas soutenable, pas durable du tout, vous contemple. On oublie tout ça un instant et on revient en arrière. Alors nous sommes en Haute-Égypte, il y a environ 4000 ans. C'en est déjà fini de l'Ancien Régime, des pharaons à l'orgueil à un poil démesuré et de leurs pyramides, des architectes géniaux et des blocs de granit de 40 tonnes pour le plafond de la chambre des rois. Sans oublier les milliers de travailleurs qui, rappelons-le, n'étaient pas des esclaves, mais des employés payés, logés, nourris et même soignés. Et oui, l'assurance vie, ça existait déjà. Dans l'oasis de Dakhla, au cœur du désert libyque, on n'a pas de blocs de calcaire ni de légions d'ouvriers. Mais on a des idées. Alors on invente la maison de maçon montée à la main avec des petites briques du cru. Des briques qu'on arrange en arc de cercle, penchées sur le côté et appuyées les uns sur les autres. On appelle ça la voûte nubienne. Alors c'est simple, c'est pas cher, et quand vient la saison chaude, ça vaut toutes les climatisations du monde. C'est peut-être ce qui a décidé Thomas Granier, un maçon français, à lancer l'opération 100 000 toits pour le Sahel. Et depuis 10 ans, la voûte nubienne, l'association qu'il a montée au Burkina Faso avec Siri Youlou, apprend aux habitants de la région à se passer des poutres et des tôles ondulées pour construire des toits de terre avec les matériaux du coin. Une technique qui s'est transmise de chantier en chantier, au Mali, au Togo, au Niger, en Guinée, au Ghana et au Sénégal. Alors un petit geste pour le maçon, mais un grand pas vers l'autonomie des habitants du Sahel et un grand coup de chapeau aux Égyptiens d'hier et de demain. Ronde des journalistes avec Hervé Kem, Feu du Monde avec nous, avec Denis Delbecq, éditeur du site Effet de Terre, avec Hélène Krievi-Esner que nous rejoindrons tout à l'heure en Caroline du Nord. Et puis même s'il n'est pas journaliste, je sais que notre ami Jean-Marie Pelt aussi est avec nous et qui nous rejoindra donc par téléphone. Et on va débuter, attention, approchez mesdames et messieurs, après l'année de la biodiversité, de la forêt, de la chimie, l'année du gaz de schiste.
Le problème avec l'exploitation du gaz de schiste, il est triple. Le premier, c'est un problème de qualité de l'eau. Parce que toute l'eau qui va être injectée ne va pas être pompée. Ça veut dire donc que vous allez avoir une eau extrêmement polluée, extrêmement chargée de pollution, qui va remonter dans les nappes et qui va remonter dans la chaîne alimentaire. Et c'est ce qui se passe aux États-Unis. C'est la raison pour laquelle aux États-Unis, par exemple, un certain nombre de villes, et pas des moindres, puisque la région de New York le fait, demande un moratoire. Et que l'EPA, sur la pression de la population, a été obligé de lancer une grande étude d'impact qui va durer 2 ans. Donc, premier problème, c'est l'eau. La deuxième question, c'est la pollution chimique, aqueuse et gazeuse, tout simplement parce que les produits chimiques qui sont utilisés sont des produits qui sont de... C'était pas pour bisounours, hein, c'est des CMR, c'est des produits cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Vous avez tous les dérivés pétroliers là-bas, benzène, toluène et tous les autres, etc. Donc, c'est des produits qui sont toxiques, avec des risques d'émanation gazeuse, et puis retrouver des traces, même plus, dans les eaux. Donc on a un vrai problème de pollution chimique. Autrement dit, d'un côté, on se rend compte des conséquences sanitaires de la pollution chimique, et d'un autre côté, on ouvre grand les vannes. Et puis le troisième volet, je dirais pour tous nos amis auditeurs tellement attentifs à la protection des sites quand il s'agit des éoliennes, n'est-ce pas, bonjour à l'exploitation des gaz de schiste.
Alors c'était Corinne Lepage dans notre émission, donc on avait consacré à peu près 25 minutes à ce sujet il y a à peu près environ un mois, donc dans notre grande Syrie on n'a pas de pétrole mais on a quand même du gaz de schiste. Alors je vous rappelle quand même le mode d'emploi du bazar, je crois qu'on l'a compris, il s'agit de forer à peu près à 2500 mètres pour atteindre la roche mère, puis après donc on fracture en injectant d'énormes quantités d'eau, de sable, de produits chimiques. La France a accordé 3 permis de prospection, j'ai bien de prospection en mars 2010 à Total, au Texan Schwebbag Energy associé à GDF Suez, et ceci sur plus de 10 000 km² dans les départements de l'Hérault, de l'Aveyron, de la Lozère, de l'Ardèche et de la Drôme. Bon, vous imaginez bien que sur place, on est remonté, on va dire pire qu'un nid de frelons asiatique qui est à la diète depuis 15 jours. Donc ça bouge quand même beaucoup, beaucoup dans tous les coins. Vous avez suivi ça de très près. D'abord, bonjour à vous, cher Hervé Kempf.
Bonjour.
Et donc, faisons un petit point sur, peut-être à la fois sur la manière dont les choses se sont faites. Là, on a vu que Nathalie Kosciusko-Morizet est donc calmé le jeu, demande une mission pour prendre le temps, pour laisser du temps au temps. Où en est-on ?
Eh bien donc, la ministre, mercredi à l'Assemblée nationale, a dit qu'elle lançait une mission d'expertise par le Conseil général de l'environnement et un autre conseil d'experts, et que le temps que cette expertise soit menée, c'est-à-dire jusqu'à juin à peu près, l'exploration ne pourra pas avoir lieu dans les départements dont vous avez parlé.
Alors, Pierre Terzian, qu'on entendait ce matin chez Alexandra Ben Saïd, dans son émission sur l'économie, donc du magazine de Pétrostratégie, disait globalement qu'on s'y était pris comme des manches. C'est-à-dire que la population n'a jamais été associée à cette affaire-là. Quoi. Ils sont arrivés un peu devant le fait accompli.
Oui, comme presque toujours dans ce genre d'affaires, à commencer par les OGM, et voilà énormément de cas où des experts bien intentionnés partent sur une affaire, des entreprises partent sur une affaire en oubliant tout à fait d'informer les gens et de demander leur avis aux populations. Voilà, c'est parti en mars. Moi, je crois que j'ai fait le premier article en France là-dessus en mars 2010. Et d'ailleurs, sans du tout imaginer que ça prendrait des proportions pareilles. Et puis ensuite, l'exploration a commencé. Monsieur Borloo a signé effectivement en rafale les permis qui sont parus à ce moment-là au journal officiel. Et puis, les populations, les citoyens, en fait, de ces départements sont mobilisés à l'automne dernier avec une vigueur énorme. Si je peux me permettre deux remarques. D'abord, c'est tout à fait impressionnant cette mobilisation locale dans des pays comme l'Ardèche, comme la Drôme, qui ne sont pas très peuplés. Et ça signifie vraiment qu'il y a maintenant une attention au territoire, à la qualité des paysages, à l'idée que la valeur environnementale est vraiment une valeur. Voilà. Et ça, c'est une réaction très forte et très vigoureuse et très citoyenne des gens. La deuxième chose que j'aurais à dire, c'est que quand même, c'est très bien de se mobiliser contre le gaz de schiste ou contre d'autres choses. Mais si ça n'est pas associé, si cette protestation n'est pas associée à une vision sur la politique de l'énergie, ça n'a pas de sens. Et je vais prendre un exemple. En 2010, la France a battu son record de consommation électrique. C'est-à-dire qu'on n'a jamais autant consommé d'électricité. Pour les deux tiers, c'était pour des raisons climatiques, parce qu'il a fait froid, mais pour un tiers, parce que la consommation a augmenté. Donc moi, si je peux me permettre, je demande vraiment aux écologistes, à ceux qui se lancent dans ce genre de bagarre, ils sont tout à fait nécessaires et légitimes, mais il faut toujours que ce soit associé avec un discours et avec surtout une approche. Il faut réduire la consommation d'énergie, parce que si on ne se met pas dans la tête qu'on réduira la consommation d'énergie et qu'il faut le faire, eh bien on n'échappera ni au gaz de schiste, ni au pétrole, ni au nucléaire, ni aux éoliennes n'importe où, etc.
Denis Delbecq, dont je le rappelle, sur le site Effet de Terre, www.effetdeterre.fr, et puis vous travaillez sur différents supports, comme Terra Eco et d'autres. Un peu votre sentiment, parce que vous suivez, vous aussi, ces affaires d'énergie.
C'est un peu ce que dit Hervé. C'est une fois de plus, on met les gens devant le fait accompli. C'est vrai que sur le papier, on nous promet des merveilles. 5, 10, 15, 20 années de consommation de gaz en France. Ça fait longtemps qu'on n'a plus de gaz, le gisement est épuisé. Donc, au nom de l'indépendance énergétique, on est prêt à peu près à faire n'importe quoi.
Peut-être pas n'importe quoi, pardonnez-moi, parce que donc NKM nous a quand même bien dit qu'il ne faudrait pas que ça se passe du tout comme aux États-Unis, où on voit effectivement sur beaucoup, beaucoup de sites des paysages ravagés, de l'eau polluée, une sécurité douteuse, pratiquement du gaz qui sort donc du robinet. Voilà, donc ce serait en tout cas plus encadré.
Ce serait plus encadré, mais il reste que pour exploiter ces gaz, il faut creuser des puits extrêmement rapprochés, à tous les 300, 400, 500 mètres. Donc ça veut dire nécessairement qu'on va s'attaquer au paysage. Je crois que ce qui pilote les politiques énergétiques, que ce soit en France, aux États-Unis, même l'époque du Grenelle, Borloo, etc., c'est finalement l'indépendance énergétique. Et on déguise ça derrière un discours sur le réchauffement climatique, etc. Mais finalement, la principale préoccupation des gouvernants des grands pays, c'est l'indépendance énergétique. Et là-dessus, bah, voilà, donc on essaye de réduire un peu la consommation d'énergie, mais finalement, on ne le fait pas. Mm-hmm. On supprime un certain nombre de mesures fiscales qui aidaient les gens justement à réduire leur consommation d'énergie. Et par contre, eh bien, tout d'un coup, on a un petit zeste d'indépendance énergétique avec ces gaz de schiste. Et donc, on laisse faire.
À votre avis, est-ce que notre ministre sera assez solide? On ne doute pas de ses convictions hein, environnementales, mais face à un parti qui rejette quand même ceci assez allègrement, quoi.
Ça va être très très difficile pour elle, d'autant qu'elle a perdu la tutelle de l'énergie qu'avait Jean-Louis Borloo à l'époque. Donc il avait un ministère plus large et on va dire plus cohérent. Oui. Aujourd'hui, il y a aussi le ministère de l'Industrie et ça va être très compliqué pour elle, hein, en sachant... Peut-être qu'on a, comme il y a les élections en 2012, ils vont calmer le jeu un peu d'ici à 2012. Et puis après 2012, on verra.
Hervé Kempf.
Oui, elle va un peu chercher à calmer le jeu. Et Denis a raison de dire 2012, parce que pour beaucoup de politiques, ils n'ont maintenant plus que ça en tête. Et ils n'analysent pas les problèmes en tant que tels, mais par rapport à cette échéance. Donc elle va être prise entre les taux. Et aussi Éric Besson, hein, c'est effectivement le cabinet d'Éric Besson, le nouveau ministre de l'Énergie et de l'Industrie, qui est très à la manœuvre là-dessus et qui a le vrai contrôle. Ils vont essayer de calmer la chèvre et le chou, c'est-à-dire ne pas relancer la mobilisation des populations locales qui sont très à cran et de manière légitime, on l'a vu, mais en même temps, il y a les intérêts économiques, il y a Total, il y a Suez, donc voilà, ouais. Je ne sais pas comment ils vont calmer cette casserole de lait qui était en train de déborder.
Alors on imagine bien que du côté du Larzac, où il y a José Bové, ça va bouger pas mal, ils ne sont pas nombreux du tout, mais ça a déjà effectivement bien secoué. On se retrouve dans quelques instants, là c'est vraiment une très très jolie pause musicale, on ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, qu'on les aime.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Ses parents, ses amis, ses femmes qu'on affectionne, avec duquel on dort, on dîne, on parle au téléphone. Souvent quand nos regards se croisent, il y a comme une chaleur. Mais de là à en faire des phrases, trop de pudeur, trop de pudeur. On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, par peur de les gêner, qu'on les aime. On leur dit jamais assez sans eux, sans elle, on serait même pas la moitié de nous-mêmes. Avant de nous dire au revoir, marcher à l'ombre, avant que sur notre histoire, le rideau tombe. Déclarer à tout ce petit monde qui m'entoure, la vie serait d'un sombre sans vous autour, vous tous autour. On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime. Jamais assez que sans eux, sans elle, on serait même pas la moitié de nous-mêmes. Qu'y a-t-il de plus important, la raison ou les sentiments? On ne dit jamais assez. On leur dit jamais assez qu'on les aime.
quel bonheur et quel bien-être donc à partager. C'était donc Louis Chédid, choisi par Muriel Perret, notre programmatrice. Puisque vous parliez de paysages, juste une petite information sans vraiment la développer. Vous avez une association pour la défense de la protection des vallées pyrénéennes, de Sceaux et de la Gela, qui se trouve du côté de Vieil-Or. Donc on est sur la station de Pion en Galie. Et là, bah, une fois de plus, c'est-à-dire qu'il y a, on veut relier donc à la fois l'Espagne et la France avec des hauts lieux du pastoralisme qui seront quand même défigurés. Alors voilà, je sais que c'est toujours entre les choix économiques d'un côté, les choix environnementaux de l'autre, qu'on va dire mais ces écolos ils veulent rien comme d'habitude. Non, le lieu est très beau, connaissant ce lieu, croyez-moi, c'est superbe. Et ça peut être un gentil petit massacre, même si on va vous assurer à peu près du contraire. Cher Jean-Marie Pelt, comment allez-vous?
Très bien.
Vous allez bien, vous savez que nos amis...
Ben oui,
ben vous êtes en Belgique, ben oui, mais oui. Oui. Et y a pas... Et pour prendre, vous voulez devenir Premier ministre en Belgique, non?
La place n'est pas prise.
Voilà.
Donc, on en parlait au repas tout à l'heure, oui, c'est très étonnant. Ce pays marche sans gouvernement depuis 7 mois.
Oui.
Alors on finit par se demander si c'est nécessaire d'avoir un gouvernement, surtout dans un État fédéral où chaque parti, c'est-à-dire la Flandre, Bruxelles et la Wallonie, ont leur propre gouvernement, donc la partition se ferait sans qu'on s'en apercevrait.
Alors, cher Jean-Marie, nous avons parlé du gaz de schiste, vous n'en avez pas trop en Lorraine, parce que vous aviez déjà du charbon, hein, donc vous avez, c'était une autre énergie fossile. Mais j'aimerais bien avoir peut-être l'avis du pharmacien que vous êtes, parce que dans l'actualité, on parle aussi quand même pas mal de médicaments et de retrait de médicaments.
Oui, moi j'ai suivi de très près l'affaire du Mediator, j'ai une formation pharmaceutique, vous le savez, et j'étais absolument stupéfait que l'AFSAPS, donc l'organisme qui suit les médicaments pour la sécurité des médicaments, ait publié une longue liste de médicaments qui sont, je ne dirais pas forcément suspects, mais qui sont sous haute surveillance.
Oui, 70, hein.
Oui, tout à fait. Ouais. Alors j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Les pharmaciens sont submergés de demandes parce que les malades, les patients qui utilisent ces médicaments, qui pour la plupart sont des médicaments très utilisés, très communs, s'inquiètent en disant « mais est-ce que je ne suis pas en train de m'empoisonner ?» Si un médicament pose un problème, il doit être retiré naturellement. Mmh. Et on a mis en place depuis maintenant une trentaine d'années un système qui est performant, qui consiste pour les pharmaciens et pour les médecins à signaler à des autorités centrales parisiennes ce qui peut faire douter d'un médicament quand on s'aperçoit qu'il y a des phénomènes inattendus, des pathologies secondaires. Donc le médicament est alors signalisé et surveillé de près. Ça, c'est le travail de l'APSAS, l'Agence française pour la sécurité des produits de santé. Alors, il ne fallait évidemment pas mettre tout ça sur la place publique.
C'est ce que vous nous dites, c'est que c'est pas la peine de... soit on retire les médicaments, mais faire la suspicion sur des médicaments qu'on ne retire pas, on ne comprend pas, quoi.
Mais bien entendu, c'est tout à fait ça. Et ceci a un effet aussi, probablement, sur l'efficacité des médicaments. Car il ne faut jamais oublier qu'un médicament est porté aussi parallèlement par un effet placebo, c'est-à-dire que le malade a confiance dans son médicament, et ceci est un élément essentiel de l'action des produits de santé, des médicaments, et donc cet aspect-là va disparaître, remplacé non plus par une confiance, mais par une suspicion. Donc c'est à mes yeux vraiment une très très grande erreur, mais je ne cesse de dénombrer dans ma profession les erreurs successives.
Oui. Parlez-nous aussi des médicaments à base de plantes aujourd'hui. On a vu passer un certain nombre d'informations, mais qui, attention, il faut bien les couper et recouper, en disant qu'on allait peut-être interdire aussi l'utilisation de ces médicaments à base de plantes.
Non, c'est pas tout à fait ça. Il n'y a que maintenant, nous allons passer, nous les Français, sous le système bruxellois concernant la fabrication et la surveillance des médicaments. C'est une directive qui est déjà très ancienne, mais qui n'avait pas été déclinée dans le droit français. Alors l'idée, c'est que les médicaments, y compris à base de plantes connues depuis très longtemps, utilisées depuis très longtemps, et sur lesquels ne doivent pas peser vraiment des suspicions réelles, ces médicaments seront enregistrés, devront avoir une étude préalable de mise sur le marché au même titre que les médicaments chimiques, et que cette opération va coûter cher à des laboratoires, souvent petits d'ailleurs, qui fabriquent ces médicaments à base de plantes. ça pourra, à mes yeux, avoir un effet dissuasif qui n'aurait pas vraiment lieu d'être. Si j'étais expert à Bruxelles, je ne le suis pas en matière de médicaments, en tout cas, je l'aurais dit. Donc, ça va affaiblir la place des médicaments végétaux, des plantes dans la thérapeutique. Et puis, alors, il y a aussi ce fait surprenant que la France ne cesse de dérembourser les médicaments à base de plantes. On a déremboursé tous les sédatifs légers à base de plantes qui, du coup, sont remplacés par des médicaments chimiques. Et après, on dit, ah ben, on consomme trop de somnifères et trop de psychotropes, mais on fait tout pour. On a déremboursé aussi les vénotropes, les médicaments des jambes lourdes, parce que c'était des médicaments à base de plantes. Là, on n'a pas véritablement d'alternative. Alors, on va chercher des alternatives chimiques qui coûteront beaucoup plus cher. On a déremboursé les essences qui ont des propriétés bactéricides, alors même qu'on décourage d'utiliser des antibiotiques. Enfin, c'est vraiment gribouille.
Oui. Merci pour ce petit point. Vous restez avec nous, hein?
Oui.
Bon, très bien. Donc, vous ne bougez pas parce qu'on a encore d'autres thèmes. Je vais me tourner vers Denis Delbecq, là, tout de suite, donc éditeur du site Effet de Serre. Pour rester un petit peu dans le domaine de l'énergie, on a bien vu, évidemment, la grogne de l'industrie des solaires. Elle s'est exprimée aussi dans cette émission. On a bien compris qu'il y avait aussi des effets d'aubaine, certainement. On a vu un certain nombre de choses se passer, des gens qui ont une vocation pour le solaire, bon, parce que le coût du rachat était tout à fait intéressant. Mais, donc, où en est-on? Faisons un tout petit point, Denis Delbecq, sur ce thème.
C'est vrai que depuis un an, on se demande un petit peu ce qui se passe des ambitions politiques qui avaient été affichées. On a des objectifs européens, la France s'est engagée, 23% d'électricité renouvelable d'ici 2020. On voit bien d'ailleurs qu'aujourd'hui, le président Sarkozy, pendant le Conseil européen, vendredi, a essayé d'introduire une nouvelle notion, en tout cas dans le discours européen, on parle moins d'énergie renouvelable et plus d'énergie décarbonée, qui est une manière de faire rentrer le nucléaire à la table des discussions sur ces objectifs européens. Et on a l'impression qu'on a une espèce d'action comme ça qui se met en place avec le soutien du ministère de l'Industrie en particulier, contre l'éolien d'une part, contre le solaire d'autre part. Tous les arguments sont bons. On a eu à l'automne, tout d'un coup, des papiers un peu partout dans la presse économique qui expliquaient qu'on allait augmenter le prix de l'électricité à cause du solaire et à cause de l'éolien.
Alors, c'est ce qu'on appelle la CSPE, la contribution au service public de l'électricité.
Voilà.
Et qui correspond à peu près à combien du montant de la facture?
Alors, grosso modo, pour les particuliers, ça correspond à 5% du montant de la facture. Et c'est une contribution qui agglomère un certain nombre de choses.
Comme la péréquation entre les différentes régions aussi.
Alors, il y a des péréquations entre les régions. Il y a notamment c'est de l'argent qui est reversé à EDF pour le développement de réseaux dans les régions qui ont peu de réseaux électriques, et en particulier dans les DOM-TOM, qui ont des problèmes d'approvisionnement en électricité. Il y a les fameux tarifs sociaux d'électricité, donc des tarifs qui sont réservés aux personnes à faible revenu. Et puis, il y a effectivement une partie qui est là aussi pour aider EDF à racheter l'électricité verte en France, l'électricité qui vient du vent et du soleil, parce que effectivement cette électricité est rachetée plus cher que la valeur du marché. Mais quand on regarde dans le détail les chiffres, on s'aperçoit, par exemple, on annonçait que EDF allait devoir débourser cette année 3 milliards d'euros pour cette énergie renouvelable. Oui, ils vont débourser 3 milliards, mais ce qu'on ne dit pas, c'est que cette électricité, il aurait fallu la produire autrement et qu'elle aurait coûté 2 milliards à EDF. Et donc, finalement, le surcoût n'est pas de 3, mais de 1, ce qui est quand même 3 fois plus faible. Et si on continue à creuser, on s'aperçoit aussi que ce fameux surcoût, il est calculé par quoi? Par rapport à des prix du marché. En 2007, pour l'éolien, c'était 30 euros les 1000 kWh, le supplément à payer pour EDF, parce que le prix de l'électricité sur le marché était très bas. 2 ans plus tard, pour la même électricité éolienne, la différence n'était plus que 10 euros parce que les prix du marché européen de l'électricité avaient augmenté. D'accord. Que donc finalement, l'écart entre cette énergie verte et les énergies disponibles sur le marché avait beaucoup diminué. Ouais. Et donc finalement, au nom de ces histoires, on essaye de casser cette machine et de casser le développement de ces énergies en Europe.
Merci,
en France.
Denis Delbecq. Hervé Kempf, allez, un peu de vitesse ne peut pas faire de mal.
Broken to my heart. Là où CO2, mon amour, passe, la pollution trépasse. Et allez. Eh ben quoi, on peut rêver un peu, non?
Bah oui, c'est ce qu'on fait, un peu les uns les autres. Là, justement, dans une émission qui prend le temps de ne pas aller vite. Je vous disais, avant Emiliana Torini, qu'un peu de vitesse, avec un peu un sourire, ne pouvait pas faire de mal. Donc reprenons et comprenez pourquoi. Voilà, écoutez ce merveilleux petit son.
Une centaine de tracteurs dans les rues de Bayonne, l'image symbolise la résistance basque à la nouvelle ligne à grande vitesse qui doit traverser le sud-ouest. Projet inutile et coûteux pour ses opposants qui réclament une simple modernisation du réseau.
Les voies actuelles ne sont pas saturées, ne seront pas saturées pendant 50 ans, donc c'est là que ça doit passer. Aujourd'hui on recycle les objets, on doit aussi recycler les voies existantes.
Et dans les rangs des manifestants, on trouve de nombreux élus de petites villes et de villages. Pour l'instant, Réseau Ferré de France a défini un fuseau d'un kilomètre de large, à l'intérieur duquel plusieurs tracés sont possibles. Mais tous concernent des zones habitées, et si le projet suscite crainte et colère au Pays Basque, il a aussi ses partisans. Pour le président de la Chambre de commerce par exemple, placer Bayonne à 3 heures de Paris est aujourd'hui une nécessité.
L'LGV permettra de développer l'économie de ce territoire, d'attirer des entreprises, des investisseurs et surtout donner de l'emploi aux jeunes.
La ligne à grande vitesse entre Bordeaux et l'Espagne doit entrer en service en 2020. Mais ici, d'autres mobilisations sont prévues pour obtenir un retrait du projet.
Voilà, c'était dans un son donc extrait du journal de TF1 du 11 décembre 2010. Et Hervé Kem, vous aviez écrit dans Le Monde, et il y a quelque temps, bon, il n'y a pas tellement longtemps, « Écolo, le TGV ?»
Oui, c'était en rebondissant en fait sur une discussion qui a eu lieu entre écologistes sur le site reporter.net, reporter.net.
Oui, non, mais ça, c'est le vôtre, il est très très bien aussi.
Et où donc, voilà, il y a d'abord Julien Milanesi, qui est un économiste à l'université de Pau, a commencé à faire un article à propos du TGV, en disant notamment, le TGV, ça coûte cher, c'est surtout utile pour les gens riches, qui sont d'un niveau élevé, mais pendant qu'on développe les TGV ou les LGV, on délaisse tout le réseau secondaire qui est utilisé par les gens qui vont au boulot à prix modique tous les jours. Et donc, il avait ce premier argument, à quoi a répondu Jean Civardière, qui est le président de la FNAUT, la Fédération Nationale des Associations d'Usagers de Transport, un autre écologiste de longue date et tout à fait convaincu, et qui dit peut-être, mais d'abord, le TGV est quand même utilisé par un très grand nombre de gens. Et puis,
93
par ailleurs,
millions de passagers en 2009.
Voilà.
Ça a très bien marché.
Parce qu'il y a des tarifs primes, il y a des tarifs seniors qui fait que ce n'est pas si coûteux que ça. Oui. Et par ailleurs, les LGV sont un moyen de faire un transfert du trafic avion vers le train.
Donc, en gros, ce qui est une réalité. On le voit très bien sur Strasbourg, sur Mulhouse. Maintenant, c'est fini pour eux.
Sur Marseille, encore que regarder récemment, l'Air France est en train de reproposer des vols vers Marseille en avion à 39 euros. Alors, on se demande un petit peu où on est. Mais à quoi a répondu à cet argument de Jean Civardière, Victor Pachon, autre troisième écologiste qui est de la CAD, qui est donc de ces associations du Pays Basque opposées au Bordeaux-Bayonne, qui dit écoutez, vous avez tort, monsieur Civardière, parce que le TGV, ça favorise les métropoles, les grandes villes comme Bordeaux, comme Rennes, comme Strasbourg, comme Lyon, mais tout ça se fait au détriment des petites villes, des villes moyennes. Et par exemple, Victor Pachon cite Le Creusot et Montchanin. Et par ailleurs, rappelle Victor Pachon, eh ben, il y a un enjeu aussi de dégâts à l'environnement, c'est-à-dire faire une ligne LGV, ça va être autant d'emprise que une autoroute, près de 7 hectares par kilomètre. Donc, ça pose un vrai problème. Et alors, voilà, il y a un débat très vif entre écologistes qui est très sincère. Je ne crois pas qu'on peut le trancher là, surtout en quelques minutes. Il y a quand même une question qui se pose, c'est que les LGV, ça coûte très cher. Incidemment, c'est fait en partenariat public-privé, donc avec des intérêts d'entreprises privées. Mais je ne rentre pas dans ce débat, mais qui est important aussi. Oui. Mais surtout, ça coûte très cher. Et je crois qu'on est à une période où il faut un petit peu choisir. Est-ce qu'on développe les LGV ? Mais vraisemblablement, ça se ferait au détriment de toutes ces lignes secondaires. Et beaucoup de vos auditeurs savent que beaucoup de ces lignes sont en mauvais état.
RFF, et Réseau comment Ferré de France, poids quand même sous la dette. Et puis, vous le rappelez, la SNCF court après son déficit.
Donc, voilà, la dette de RFF, je crois que c'est 28 milliards d'euros. Donc, peut-être qu'il faut faire des choix une fois de plus dans cette économie de croissance qui repose sur l'endettement. Il faut peut-être changer de système. Un point quand même, ça s'inscrit aussi dans le débat politique, puisque en Rhône-Alpes, le parti de gauche et Europe Écologie ont fait une motion il y a quelques mois pour dire dire, ben voilà, les aménagements du TGV dans notre région, ça se fait au détriment des TER. Et par ailleurs, mais peut-être que vous allez en parler, Ségolène Royal et la région Poitou-Charentes a pris position contre, enfin, demande une vraie analyse économique sur la voie de TGV, LGV, Poitiers-Limoges.
Alors, Jean-Marie Pelt, maintenant, lorsque je viens chez vous pour faire les reportages, ben c'est vrai que ça se fait en une heure et demie pour aller à Metz, quand vous venez me chercher à la gare. Et puis avant, ça se faisait en 2h45, 3h. Hein, c'était à peu près, c'était
oui,
à peu près ça. Voilà, donc
c'est exactement la moitié. Maintenant, c'est 1h23, donc ouais. C'est exactement la moitié.
Vous vous sentez mieux avec ça ou pas? Non, je sais pas, vous, à titre personnel
Non, moi, ça m'arrange pas du tout. Mais enfin, ça, c'est moi. Hein. Ça m'arrange pas du tout parce que je serai à Paris après-demain. Je ne sais pas à quelle heure je sortirai de ma réunion. J'ai donc pris un TGV tard. Et ben, j'attendrai dans mon hôtel, comme d'habitude, de prendre le TGV.
Alors Jean-Marie, on va partir maintenant sur l'écologie et la présidentielle. Je vais dire par là que nous attendons donc une espèce de fumée blanche du conclave, avec peut-être un messie qui peut s'appeler Nicolas Hulot, d'autre côté un autre messie qui peut s'appeler DSK. Qu'est-ce que vous avez un peu envie de dire sur ce thème, s'il vous plaît?
Mais écoutez, moi je me rapporte à la précédente élection présidentielle de 2007 où Nicolas Hulot a fait un travail colossal. D'abord, c'est lui quand même, par son action, qui a réveillé les sentiments écologiques de notre pays, par le pacte écologique. Ensuite, il est le père du Grenelle de l'environnement. Et je ne vois rien poindre qui soit identique actuellement pour 2012. Je constate que chez Europe Écologie Les Verts, on n'a pas encore désigné un candidat. Mais je crains ici de nouveau une marginalisation avec un score court, en tout cas un score à un chiffre ou à un demi-chiffre. Et j'aimerais, moi, que Nicolas Hulot reprenne du service, qu'il fasse un score à deux chiffres, parce qu'il a fait la démonstration de ce qu'il est capable de faire pour l'écologie.
Alors, aujourd'hui, en fait, sa popularité tient à sa réelle connaissance des sujets, parce qu'il est entouré par une équipe, aussi un conseil scientifique, mais il connaît très bien cela. Le fait aussi qu'il ne s'est en fait jamais engagé. Alors, est-ce qu'il voudra se définir aussi, à un moment ou à un autre, par rapport à la droite et à la gauche? Ça, c'est une autre question. Il n'appartient pas à Europe Écologie Les Verts, et donc l'idée, ce serait que si il souhaitait y aller, ce qui n'est pas sûr du tout, parce que la chose politique n'est pas son truc. C'est-à-dire qu'il faut quand même s'appuyer à un certain nombre de meetings pendant 6 mois. On va dire qu'il y a aussi des déballages, des pots de bananes. C'est pas forcément sa sensibilité, quoi. Donc,
Non, c'est un choix très difficile. Moi, j'en sais quelque chose parce qu'à mon tout petit niveau, j'ai dû choisir à un moment donné de m'engager à la mairie de Metz en tant que premier adjoint, à une époque où il fallait pour Metz une transformation absolument radicale qui m'a pris entièrement et qui m'a éloigné de mes pistes de recherche scientifique alors que c'était ma passion. Donc je sais ce que c'est de devoir dire j'y vais par devoir. Voilà. Alors je ne veux pas dire à Nicolas que j'estime beaucoup que c'est son devoir, mais je vais dire simplement qu'il devrait se situer nettement en avant pour être suivi ensuite par Europe Écologie Les Verts, et qu'il ne faut pas trop regarder le positionnement politique, mais les capacités d'action.
Eric Hempf.
Ben, moi, je suis un peu mal à l'aise en deux mots. Je pense que cette élection en 2012, elle est en 2012. Et là, nous sommes le 5 février 2011. Oui. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que la politique, ce soit pas seulement est-ce que M. Hulot, Mme Joly, M. Cochet, M. Strauss-Kahn, Mme Aubry,
c'est quoi le projet,
et toute la bande, et qu'on passe notre temps à être baladé de sondage d'opinion en sondage d'opinion avec des commentateurs politiques qui ne passent leur temps simplement à regarder si machin a une chance par rapport à machine, etc. Mais qu'on nous parle de contenu. Donc moi, ce que je voudrais, c'est un contenu sur la politique écologique, sur, par exemple, le nucléaire, sur la politique de consommation énergétique, sur la question sociale et la réduction des inégalités, sur des emplois dans l'agriculture, des emplois dans l'isolation thermique, dans une nouvelle politique de l'énergie, dans l'éducation, qui est tout à fait essentielle. pour l'écologie, comme pour l'instruction civique, comme pour mille autres choses. Voilà, moi c'est ça que j'attends, et donc je dois avouer que Monsieur Hulot ou Madame X se décide, je voudrais d'abord qu'ils disent des choses. Et pour l'instant, je n'entends pas grand-chose. Si je peux me permettre de rebondir sur un exemple très concret.
Allons à Nantes.
Il y a le projet de Notre-Dame-des-Landes au nord de Nantes, oui, qui est soutenu par Jean-Marc Ayrault, député maire de Nantes, parti socialiste, et puis tous les élus
par ailleurs, UMP. Par ailleurs, sur Nantes, belle politique globalement environnementale.
Oui, hein. C'est ça qui est tout à fait absurde. C'est que, effectivement, la ville de Nantes, sur le plan environnemental, ça marche
mais
bien,
c'est
du bon boulot. Mais pour des raisons qui me paraissent confinées à l'absurde au bout d'un moment, ils s'obstinent à vouloir faire cet aéroport au nord de Nantes, de Nantes sur 1500, plus de 1500 hectares, de supprimer des exploitations agricoles qui existent et répandre certaines artificialisations, et évidemment susciter du trafic aérien. Or, la semaine dernière, il y a eu, par le pôle écologique du Parti Socialiste, un très bon colloque sur le pic pétrolier, où on a appris des choses passionnantes. Et qui, en gros, et les députés qui étaient présents, c'était des députés socialistes d'ailleurs, ils étaient 7, et ben ils ont reconnu, oui, il y a un problème de pic pétrolier. Et donc, on va devoir changer de politique énergétique. Et moi, par exemple, plutôt que de savoir si c'est Madame Aubry ou Monsieur Machin qui sera candidat aux primaires ou après, je voudrais que les candidats socialistes nous répondent. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit le pôle écologique du PS ? Oui, il y a un pic pétrolier. Si vous acceptez ce que disent vos propres experts, est-ce que vous acceptez en même temps de faire un aéroport qui, manifestement, va à l'encontre de la politique énergétique qu'implique l'approche du pic pétrolier. Et donc, moi, quand je, par exemple, ces candidats m'auraient répondu « oui, je soutiens ce projet » ou « non, je pense qu'il est absurde », je me déterminerai, et je pense beaucoup d'autres citoyens, pour tel ou tel candidat. On n'a pas besoin de non, là, on a besoin d'engagement, de politique, de vraie analyse de la situation et des problèmes d'aujourd'hui.
Vous signez ça, Jean-Marie Pelt ?
Non, tout à fait. Je le signe à deux mains, c'est l'évidence même. Non, mais lorsque je parle de Nicolas Hulot, c'est parce qu'il a démontré qu'il est en capacité d'agir avec efficacité. Okay. C'est ça que je veux dire. Maintenant, quant au petit jeu français de jouer pendant un an à savoir qui sera le prochain président de la République, nous raffolons ce jeu-là. Puisque
ça.
Nous avons même inventé un deuxième jeu qui a duré six mois en 2010, qui sera le Premier ministre.
Ah oui.
Nous adorons ce suspense.
C'est formidable. Jean-Marie, je vais vous laisser vous sauver parce que je sais que vous êtes bientôt en conférence. Vous soignez votre voix parce que nous, on va se retrouver à Chemillier, ça va être dans le Maine-et-Loire, mercredi soir, ensemble tous les deux. Et puis, on parlera à partir de la semaine prochaine de l'évolution vue par un botaniste. Parce que, juste en trois mots, en fait, ça a été un peu l'apanage, on va dire, des zoologistes. Et puis, vous avez gratté ça. Vous êtes tout à fait évolutionniste, que les choses soient parfaitement claires. Mais, vous êtes allé gratter du côté des plantes.
Tout à fait. Et on voit des choses qu'on ne voit pas forcément autrement. Et en particulier, on voit que les plantes ont des pistes évolutives qu'elles suivent avec une étonnante obstination, au point qu'on finit par se dire il y a le hasard dans l'évolution, c'est évident, mais peut-être qu'il n'y a pas que le hasard. Et c'est ce qu'on va raconter à nos auditeurs.
Je vous laisse, et puis on se retrouve la semaine prochaine, Jean-Marie. Et nous continuons, nous, avec nos amis ici, à cette ronde des journalistes, mais après Maxime Le Forestier.
Quelle imagination, ça sort, la chose qui balance ses trésors. Pas de collier, pas de matricule, ça met le feu à ton vestibule. Prends sa lumière, choisis son heure, paye pas son écho au passeur. Elle passe quand même, ça vous épate, elle passe bien, même à quatre pas. Voilà une chienne d'idées qu'on n'a plus pour longtemps. Voilà une chienne d'idées, faut qu'on la pique avant. De quel bois ça peut bien se chauffer, la chose qui se fait jamais coffrer. La petite cousine à Houdini quitte la rivière du fond de son lit. Tu vas pas fermer maintenant en plein cocktail. Bien étonnant, ce qu'elle leur glisse entre les doigts. Les hommes sans plus, les hommes de loi. Voilà une chienne d'idées qu'on n'a plus pour longtemps. Voilà une chienne d'idées, faut qu'on la pique avant.
Voilà une chienne d'idées qu'on n'a plus pour longtemps. Voilà une chienne d'idées, faut qu'on la pique avant. Voilà une chienne d'idées qu'on n'a plus pour longtemps. Voilà une chienne d'idées, faut qu'on la pique avant.
Avant qu'elle s'efface sous leur gomme, qu'elle participe à un sitcom, qu'elle se mélange à leur crayon, qu'elle sache plus jamais écrire non. Je voudrais que tu l'invites à boire, Oscar. Ne me répète pas qu'il est trop tard.
Voilà une chienne d'idées qu'on n'a plus pour longtemps. Voilà une chienne d'idées qu'on la pique avant. Voilà une chienne d'idées qu'on n'a plus pour longtemps. Voilà une chienne d'idées, faut qu'on la pique avant. Voilà une chienne d'idées qu'on n'a plus pour longtemps. Voilà une chienne d'idées, faut qu'on la pique avant. Voilà une chienne d'idées qu'on n'a plus pour longtemps. Voilà une chienne d'idées, faut qu'on la pique avant. Voilà une chienne d'idées qu'on a plus pour longtemps. Voilà une chienne d'idées, faut qu'on la pique avant. Voilà une chienne d'idées qu'on a plus pour longtemps. Voilà une chienne d'idées, faut qu'on la pique avant.
Restez avec nous, on ne va pas se piquer les uns les autres. Mais on va partir tout de suite dans cette ronde des journalistes. Rejoindre aux États-Unis, en Caroline du Nord, Hélène Crier-Vignester. Bonjour à vous.
Bonjour Denis.
Alors vous appartenez toujours à Rue 89, vous écrivez aussi dans Politis. Quelle est la météo, dites donc, en Caroline du Nord? On va rappeler que vous êtes entre Washington et la Floride. Quel temps vous avez en ce moment?
Eh ben, il fait un froid de canard et il pleut. Mais heureusement, on n'a pas eu les grandes horreurs du blizzard il y a 2-3 jours là, qui a paralysé la moitié des États-Unis.
Alors, on va parler du nucléaire parce que c'est savoir si c'est vraiment reparti aux États-Unis. Bon, le président Obama a l'air très enthousiaste. Il range l'énergie nucléaire dans la catégorie des nouvelles énergies propres. Il dit qu'il faut développer ça d'urgence. Est-ce que de nouveaux réacteurs vont pousser comme des champignons, Hélène ?
Oui, alors, énergie propre, c'est bien ce que le président a dit dans son discours sur l'état de la nation le 26 janvier, parce qu'Obama réclame, alors je cite, un nouveau standard pour l'énergie pour encourager les États-Unis à atteindre 80% d'énergie propre en 2035. C'est bien, c'est bien. Le hic, c'est que dans énergie propre, le président inclut le nucléaire, le gaz et le charbon. Propre, of course. Hein. Alors, les écologistes, ils s'esclaffent, enfin, ils rient jaune, parce qu'ils disent « oser une redéfinition du mot propre n'aide pas l'environnement, ça aide seulement les industriels pollueurs ». Alors, quant aux réacteurs qui pousseraient comme des champignons, ben oui, c'est un peu l'objectif affiché depuis 2 ans, notamment parce que les Républicains qui ont emporté les élections, ils veulent relancer l'industrie nucléaire. Mais le problème, c'est que cette volonté, elle bute sur une réalité têtue, c'est que l'énergie nucléaire est plus chère que ses copines, notamment au départ quand il s'agit de construire des centrales.
Alors justement, à part le traumatisme de l'accident de Three Mile Island, c'était en 1979, pourquoi le nucléaire civil est-il resté stagnant depuis 30 ans aux États-Unis ?
L'accident de TMI, il n'avait pas fait de mort, c'était beaucoup moins grave que Tchernobyl, mais ça avait tout de même terrifié les Américains. Alors depuis, il n'y a plus un seul nouveau réacteur qui avait été mis en chantier, et les plus récentes des centrales nucléaires américaines qui tournent maintenant, elles datent du tout début des années 80. Évidemment, après, il y a eu Tchernobyl, ça avait encore renforcé la frousse. Ça fait un moratoire de fait. Hein. Et depuis 2 ans, à cause de la menace climatique, les pro-nucléaires reviennent à la charge. Et ce qui handicape la reprise du nucléaire, en vrai, c'est le coût de revient d'un réacteur. Oui. Parce qu'aux dernières estimations données par les électriciens eux-mêmes, c'est pas des estimations antinucléaires, c'est les électriciens, ils disent il faut compter 10 milliards de dollars pour un réacteur. Un réacteur, hein. Oui. Ça fait cher, surtout qu'aux États-Unis, l'industrie, c'est pas comme en France, il n'y a pas une intervention de l'État historique dans le nucléaire. L'industrie nucléaire, elle est complètement aux mains du privé. La bourse, Wall Street, quoi, si vous préférez, et les actionnaires des compagnies électriques, ils ne veulent pas prendre ce risque-là.
Alors si c'est cher, comment les électriciens vont-ils s'y prendre pour financer leur projet de nouveaux réacteurs ?
Vous devinez pas.
Ben non.
Ils veulent faire payer les consommateurs.
Oh zut. Ah oui.
Par anticipation.
Ah oui,
par anticipation. Ils veulent augmenter, mais c'est très sérieux. C'est pas des projets vagues et tout. On a déjà parlé de ça au niveau de la législature et tout. Augmenter 10 ans à l'avance les factures d'électricité. 10, 15 ans, ça dépend parce qu'il y a toujours des retards, n'est-ce pas, dans les constructions.
Mm-hmm.
Donc augmenter 10 ans à l'avance les factures d'électricité, soit environ 25 $ de plus par mois. C'est le chiffre, encore une fois, des compagnies elles-mêmes. Alors inutile de dire que si ça se confirme, l'opinion publique, qui est plutôt indifférente au nucléaire depuis une dizaine d'années, risque de se retourner vite fait. Mais il y a plusieurs États américains qui autorisent déjà cette manœuvre, dont la Floride et la Caroline du Sud, qui est juste en dessous de nous en Caroline du Nord, où les projets de nouveaux réacteurs sont très nombreux. Et comme c'est encore illégal dans mon État de faire payer par anticipation,
ouais,
la législature de Caroline du Nord, qui vient de basculer à droite, elle est en train d'étudier la possibilité de changer la loi.
D'accord.
Tout simplement.
Vous avez déjà parlé des écologistes et des antinucléaires. Qu'est-ce qu'ils disent? Parce qu'on pense que leur stratégie quand même assez différente des antinucléaires français.
Alors déjà, ce que font les écologistes en général, les groupes antinucléaires très structurés, très professionnels aux États-Unis, ils tentent de rétablir la vérité sur les vrais coûts du nucléaire. Alors, ils multiplient notamment les rapports qui montrent que dans beaucoup d'États, et notamment dans les États du Sud, qui sont très nucléarisés, beaucoup plus que les autres, les énergies renouvelables sont plus compétitives que le nucléaire. Alors, c'est vrai que la stratégie des antinucléaires américains, elle est assez différente de celle qu'on connaît en France, parce que leur argument principal en ce moment, notamment parce que c'est vrai qu'ils adaptent selon les circonstances, mais leur argument principal, c'est que dans les États américains les plus nucléarisés, il n'y a pas de marché libre de l'énergie. Deux compagnies ont le monopole du marché, elles n'entendent pas se faire concurrence à elles-mêmes avec des renouvelables. Alors leur slogan aux antinucléaires, c'est le suivant, attention Denis, accrochez-vous, laissons le marché choisir, où est le capitalisme quand on a vraiment besoin de lui, c'est pas normal que les actionnaires financiers reportent le risque sur les clients. Mais moi je peux vous dire qu'en tout cas c'est un argument qu'entendent très très bien les consommateurs américains.
Bien sûr. Alors notre EDF nationale a des projets sérieux aux États-Unis et elle veut jouer les VRP pour le nouveau réacteur Areva. C'est à peu près ça en ce moment ?
En fait, le projet d'EDF d'être le maître d'œuvre et d'ouvrage du nouveau réacteur Areva, c'est-à-dire celui qui est en construction à Flamanville et en Finlande, avec les retards qu'on sait. Donc ils avaient un projet pour le construire dans le Maryland, qui est au nord de Washington DC.
Mm-hmm.
Et comme la loi américaine oblige à avoir un partenaire américain, c'était associé avec une compagnie électrique américaine qui s'appelle Constellation. Constellation Energy.
Ouais.
Ça roulait, ils avaient demandé les permis de construire, enfin les préliminaires des permis de construire, et quand Constellation Energy a vu les coûts faramineux que ça prenait, ils ont décidé de se retirer du partenariat avec EDF.
Ouais.
Alors EDF est seul sur le coup actuellement, ils cherchent un nouveau partenaire. Enfin, moi, je me demande ce que EDF cherche en voulant absolument rester sur le marché américain, parce qu'il est clair qu'elle ne va pas faire d'argent pendant un bon moment.
Merci, chère Hélène. Sinon, à part donc, ces nouvelles-là, est-ce qu'il y a d'autres nouvelles intéressantes aux États-Unis d'un point de vue environnemental? Est-ce que vous voyez des choses évoluer, des choses intéressantes?
Ça reste dans le domaine de l'énergie. L'énergie solaire, tout de même, comme en France, a pris quand même beaucoup d'essor. Et le problème, c'est que la crise a mis en danger beaucoup de compagnies. Donc, très curieusement, alors que l'énergie solaire donc, se développe ici, et même l'administration Obama, qui a donné beaucoup d'incitations fiscales, d'aide à l'emploi à ces compagnies pour faire du solaire, ils assistent plus ou moins impuissants au fait que les emplois partent en Chine. Ça, dans le monde de l'environnement, on en parle beaucoup en ce moment.
Merci, Hélène Krivi-Esner. Et puis, on vous retrouve sur 89 et sur Politis tout à fait régulièrement. À très bientôt. Au revoir Hélène.
Au revoir Denis.
Denis Delbecq, un tout petit complément très rapide.
Oui, aux dernières nouvelles, EDF ne cherche plus vraiment de partenaire parce que il semblerait que le prix du gaz ayant tellement baissé aux États-Unis, le nucléaire ne soit plus rentable de source officielle EDF.
Mais c'est grâce au gaz de schiste. En fait.
C'est bien sûr les gaz de schiste.
Et voilà. Youpi. Alors maintenant un petit coup de cœur pendant que vous y êtes sur un ouvrage qui s'appelle Voyage dans l'Anthropocène de Claude Lorius et de Laurent Carpentier chez Actes Sud.
Oui, alors l'Anthropocène, c'est cette ère géologique. On ne sait pas très bien quand est-ce qu'elle a commencé. Les chercheurs, les scientifiques en discutent. C'est cette ère géologique où finalement c'est l'homme qui devient le principal artisan de la planète, c'est plus les grandes forces de la géologie que la dérive des continents, le climat. Et Claude Lorius, on pourrait dire avec toute la tendresse qu'on peut avoir avec un homme de science qui a tellement apporté à la planète et à la connaissance notamment du climat. C'est un peu le vieux sage qui a étudié les glaces du pôle sud pendant des décennies. Et c'est lui qui, un jour, en buvant un whisky dans lequel il avait versé un glaçon de glace qu'il avait extrait de plusieurs centaines de mètres de profondeur, a vu son whisky pétiller et il a tout d'un coup dit « Ah, il y a du gaz carbonique là-dedans. » Et si on étudiait le gaz carbonique dans les glaces?
Et bien plus tard, en 87, les premiers
20 carottages. Ans plus tard, on a eu une lecture du climat, du gaz carbonique sur l'Antarctique sur 400 000 ans. Maintenant, on en est à 800 000 ans avec le dernier forage français. Et voilà. Et ce livre est absolument formidable parce que le Russe, finalement, on a l'impression qu'il lit l'humanité, toute l'histoire de l'humanité du XXe siècle en particulier. Dans les glaces, il y trouve la pollution des bombes atomiques qui explosaient, on y trouve le plomb, on y trouve tous les produits, les pesticides, les produits chimiques, le climat qui se réchauffe. Et finalement, à travers cette histoire, il raconte beaucoup d'anecdotes de ces années, ces décennies de recherche. Il a passé 6 ans de sa vie au pôle Sud. Il nous livre un peu une espèce de vision de la planète, lue à un endroit où pourtant il n'y avait pas d'hommes, il n'y aurait pas dû y avoir de traces des hommes.
Voyage en Anthropocène, c'est chez Actes Sud. Moi, je vous recommande L'oligarchie, ça suffit, Vive la démocratie de Hervé Kempf au Seuil. Mais qui viendra nous en parler, ce sera en direct, je pense, le 19 mars de mémoire, au Salon du Livre de Paris. Merci à vous deux. Merci à Sophie Moreno, à Patrick Henry, à Marion Lelay, à Jean-Christophe Pinaza et à Fabrice Lègle qui réalisait l'émission, à Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO de mon amour. Je vous recommande aussi son site L'Environnement en temps réel. Et puis la semaine prochaine, je recevrai un écrivain voyageur. On va parler de tas de sujets. Avec lui, il sera rédacteur en chef. C'est Sylvain Tesson. Possibilité pour vous de réenregistrer l'émission pendant une semaine, donc de la podcaster, et de la réécouter pendant 4 semaines. Demain, 19h54, je vous retrouve avec les livres pour enfants. Ouais, l'as-tu lu, mon petit loup ? Super !